Alors, bonsoir. Nos premiers mots, même si je suis la voix, nos premiers mots seront pour vous remercier de vous être dérangé ce soir, malgré les éléments extérieurs qui ne sont pas propices, je le reconnais, à la promenade. Et puis, pour vous expliquer pourquoi nous sommes seulement deux ce soir, alors qu'il était annoncé que nous serions trois. Notre collègue et amie Marguerite Figeac a malheureusement eu cet après-midi un accident. La circulation, elle a dû être hospitalisée. Ces nouvelles ne sont pas alarmantes, je vous le dis aussi. Mais malheureusement, bien sûr, elle ne peut pas être avec nous. Elle ne peut pas être avec nous ce soir. C'est donc à Caroline Lemao et à moi-même qu'il revient alors d'animer cette rencontre, qui est une rencontre qui a pour objet de faire le point sur, je dirais, le passé, le présent et l'avenir de cette revue qu'est la revue historique donc de Bordeaux et du département de la Gironde, dont voici le dernier numéro. Et si nous avons souhaité particulièrement en ce début d'année faire le point, c'est que, à titre tout à fait exceptionnel, la revue a publié, vous l'avez probablement noté, vous en avez peut-être été averti, la revue a publié l'an dernier deux numéros, un numéro consacré à éduquer, former et instruire, et un second numéro intitulé « L'Aquitaine au féminin ». Vous savez que généralement les revues ont des problèmes, ont des difficultés à l'heure actuelle à publier, il faut bien le reconnaître, les temps ne sont pas si favorables que ça à l'écrit, encore moins favorables, je dirais, à l'écrit scientifique, et le fait que la revue ait pu publier dans l'année deux numéros me paraissait devoir mériter l'attention du public. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de cette manifestation. Et la librairie Mola, que je remercie, bien sûr, a bien voulu nous offrir l'hospitalité dans ses salons. Alors, faut-il présenter Caroline Lemao ? Je n'en suis pas sûre. Caroline Lemao est maître de conférence à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Elle a soutenu en 2005 une magnifique thèse consacrée aux magistrats, aux membres du Parlement de Bordeaux, aux magistrats à l'époque du règne de Louis XIV, renouvelant complètement ce qui avait pu être écrit, pas grand-chose à vrai dire, sur cette période, et en donnant une synthèse éblouissante. Elle a aussi ajouté à cela de très nombreuses publications, notamment celle du fameux mémorial de Savignac, qui est un des grands éléments d'information sur l'histoire locale bordelaise. C'est dire effectivement qu'on est déjà tout à fait dans le type de matériaux qui font de la revue historique. Il est toujours un peu difficile de se présenter soi-même, donc je pense que Caroline va être à l'œuvre pour me présenter, mais je voudrais dire aussi que nous n'oublions pas Marguerite Figeac, bien qu'elle ne soit pas là ce soir. Marguerite est connue pour ses travaux sur les élites bordelaises, et en particulier sur la famille Lursalus d'Ikem, auquel elle a consacré elle aussi une très belle thèse. Marguerite est maître de conférence d'histoire à l'IUFM, et c'est peut-être, je dirais, le fait qu'elle exerce précisément dans un établissement de formation qui l'a, on y reviendra sans doute tout à l'heure, qui l'a amené à s'intéresser plus spécifiquement aux problèmes d'instruction, d'éducation et de formation.
Qu'il m'appartient donc de présenter, s'il en était besoin, Séverine Pacteau-Deluze. Vous la connaissez sans doute toutes et tous pour ses travaux sur les protestants bordelais, qui ont d'ailleurs donné lieu à une très belle publication par les éditions Mola. Un certain nombre d'entre vous la connaissent pour avoir œuvré pendant de longues années à l'IEP de Bordeaux. D'autres la connaissent aussi aujourd'hui pour être la secrétaire perpétuelle de l'Académie. Je crois d'ailleurs que c'est tout récent. Mais on vous connaît peut-être moins dans votre rôle donc de directrice de la revue historique historique de Bordeaux qui explique votre présence ici ce soir. Donc je commencerai donc par une série de questions justement liées à cette revue historique de Bordeaux. D'abord, qu'est-ce que la revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde? Et vous qui êtes historienne, donc pouvez-vous nous en faire un historique rapide?
Alors, effectivement, je suis plutôt que directrice de la revue, je suis en fait depuis 2004. Depuis 2004, présidente de la Société historique de Bordeaux, fonction à laquelle j'ai été appelée par Pierre Guillaume, qui l'assurait précédemment, et qui m'a demandé de lui succéder. Si j'ai accepté cette fonction, et je vais bien sûr, rassurez-vous, parler et de la Société historique et de la revue, si j'ai accepté cette fonction, c'est à la fois parce que j'ai été, comme tout historien bordelais, j'ai été nourri par la lecture de la collection des numéros de la revue historique, et puis parce que, très profondément, je pense qu'il est indispensable qu'il y ait dans les grandes de villes françaises, des revues qui précisément se donnent pour mission d'assurer la connaissance, de permettre l'exploration et d'assurer la diffusion des travaux d'histoire locale. Donc une démarche qui est une démarche, si vous voulez, fondée sur des convictions. Alors, cette revue est l'effet du choix de la Société historique de Bordeaux, qui est une société centenaire. La Société historique de Bordeaux a été fondée en effet en 1907. Elle a été fondée par le professeur Paul Courteau. Paul Courteau, qui était titulaire à la Faculté des Lettres de Bordeaux, de la chaire d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. Et déjà, le fait d'occuper cette chaire d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest était, je dirais, souligner la qualité de l'historien qu'était Paul Courteau. En effet, Courteau lui-même succédait dans cette fonction à l'historien incomparable que fut Camille Julien, qui avait obtenu de la municipalité de Bordeaux et de la Faculté de Lettres, car ça a été au départ une création purement locale, hein, financée par la municipalité, Camille Julien, donc, avait obtenu des autorités universitaires et des autorités municipales que l'on crée ce pôle historique qui, jusque-là, n'existait pas, la Faculté des Lettres de Bordeaux. Au départ de Camille Julien, pour Paris, appelé, vous le savez, à de hautes fonctions à l'Institut, Courteau donc prend le relais, et Courteau a le souci de pérenniser en quelque sorte et surtout d'ouvrir à un public plus large que le public universitaire les études d'histoire locale. Il décide donc, avec une poignée d'érudits, c'est l'expression qu'il emploie, hein, une poignée de gens de bonne volonté, il décide donc de la création d'une société historique, société qui a pour unique fonction, c'est assez rare hein, dans l'histoire des sociétés savantes, unique fonction de publier une revue. Cette revue, c'est la revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, dont le premier numéro a été publié et sorti des presses au début de l'année 1908. Revue donc d'universitaire, mais revue qui, à l'origine, avait aussi pour particularité de compter parmi ses membres fondateurs des amateurs éclairés et également, je dirais, les professionnels du livre et des archives. C'est donc une revue qui a été portée sur les fonts baptismaux par des personnes ayant des centres d'intérêt intellectuel identiques, hein, la passion de l'histoire locale, mais ayant, si vous voulez, un rapport aux matériaux historiques, qui était un rapport différent. Le rapport que peut avoir un conservateur de bibliothèque, le rapport que peut avoir un conservateur d'archives, le rapport qu'a l'universitaire, n'est pas exactement le même aux matériaux historiques. Et la revue s'est développée, si vous voulez, sur ces bases-là. Alors, il a fallu... tout a été à construire. Hein, en 1908. Il a fallu d'abord trouver des fonds. Hein, et on peut dire, et Courtauld le dit très clairement, les fondateurs ont mis la main au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis les sommes d'argent nécessaires pour assurer la publication. Il a fallu ensuite, je dirais, trouver des textes à publier. On s'est tourné normalement à la fois vers les universitaires et vers les amateurs, mais s'agissant des universitaires, on a pris soin de chercher des auteurs, et c'était original pour l'époque, de chercher des auteurs dans l'ensemble des universités bordelaises. C'est-à-dire qu'il y a eu certes des historiens, mais il y a eu des juristes, il y a eu également des scientifiques, hein, je pense à Ulysse Gaillon par exemple, le spécialiste, on le sait, des questions viticoles, qui faisait partie de ce comité fondateur. Et puis s'y ajoutait, je le répète, les responsables de la bibliothèque municipale, des archives départementales et des archives municipales, ainsi que des imprimeurs. Fort utile quand il s'agit de passer au stade de la réalisation matérielle. Je pense en particulier à la famille Gounouyou qui a beaucoup travaillé en ce domaine et beaucoup aidé la revue. Des libraires, Mounas Tropicamil, hein, les vieux bordelais connaissent ces noms-là, et un peu plus tard la famille Picot qui ont beaucoup fait pour la diffusion de la revue. D'une manière générale, si vous voulez, tout le monde finalement de l'histoire, de la science historique et du livre s'est réuni pour assurer le devenir de cette revue. Alors, la revue historique a donc entamé son existence de cette manière-là, avec l'ambition, comme le dit Courtauld, de faire connaître dans le détail et de façon scientifique, et non plus simplement sous la forme de récits ou d'anecdotes, ce qui était un peu la manière dont on considérait l'histoire locale au début du XXe siècle. Donc, faire connaître, et je cite Courtauld, comment on vivait, comment on travaillait, comment on s'amusait à Bordeaux. C'est dire que la revue voulait, dès le départ, se démarquer des champs de l'histoire noble, hein, l'histoire politique, l'histoire économique, qui commençait également pour s'attacher à ce qu'on appellera beaucoup plus tard, ou tout au moins une bonne génération plus tard, ce qu'on appellera la nouvelle histoire, pour s'attacher aussi ce qu'on appellera trois générations plus tard cette fois-ci, l'histoire matérielle. Une revue donc qui est partie sur ces bases-là, qui a connu du succès, dès le départ, mais qui a eu quand même une histoire un peu mouvementée, le prouve le fait que, vous verrez, sur les volumes paraissant actuellement, il est question d'une troisième série. Alors, pourquoi troisième série ? La revue a connu trois moments dans son histoire. Elle a paru, c'est la première série, elle a paru de 1908... à 1946. Vous pouvez comprendre qu'en 1946, la situation était difficile, matérielle, politique, et la revue n'avait à ce moment-là pratiquement plus d'abonnés, et elle a disparu pendant quelque temps. En 1952, c'est le deuxième temps de la vie de la revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, avec le soutien de Jacques Chaban-Delmas, on retrouve toujours la municipalité dans cette revue et cet appui. Avec le soutien de Jacques Chaban-Delmas, la revue a connu une seconde vie et une deuxième série. La municipalité, je dirais, a apporté des fonds hein, pour la relance de la revue. Elle s'est ouverte, la revue. C'est-à-dire que les historiens et les juristes ont fait de la place, d'abord aux historiens du politique, ce qui n'était pas le cas. Avant, on a fait de la place aux géographes, on a fait de la place aux démographes, et on a aussi pensé qu'on pouvait faire de la place aux acteurs de l'histoire du moment. Je pense en particulier à une chronique qui a été tenue dans la revue pendant les années 60 et 70, qui était animée par le professeur d'économie qui était Joseph Lajugy, président du comité d'expansion, et qui régulièrement, si vous voulez, au fond, introduisait le point de vue des acteurs de l'histoire en train de se faire dans la revue. Ça a été la deuxième vie de la revue. Deuxième vie qui s'est progressivement étiolée, progressivement amenuisée, peut-être parce que l'université a pris de la distance, il faut le reconnaître, les universitaires se sont moins intéressés à la revue, parce qu'aussi les responsables eux-mêmes y ont porté moins d'intérêt, et donc la revue s'est endormie. Elle s'est endormie, et très clairement, elle a cessé de paraître. Elle a cessé de paraître en 1993, malheureusement. Au début du présent siècle, Pierre Guillaume, qui était alors le président de la Fédération historique du Sud-Ouest, a estimé, je dirais avec la lucidité et l'esprit de décision qu'il caractérise, qu'il était impensable que Bordeaux n'est plus de revue d'histoire locale. Et il a décidé, d'une part, de ranimer la société historique et, d'autre part, d'activer, si vous voulez, de nouvelles publications. Alors, en recrutant toute une équipe parmi la jeune génération universitaire, c'est comme ça que... D'abord, les historiens de la faculté, modernistes et contemporanéistes, on pense à Michel Figeac, on pense à Laurent Coste, on pense à François Cadillon, on pense à Marc Agostino et à bien d'autres, ont été recrutés, que les jeunes doctorants et thésards, Caroline Lemao, Corinne Marache, plus tard Philippe Mézy, ont été également mis à contribution, et il a été décidé, à partir de 2002, il a été réalisé à partir de 2002 une nouvelle série, la troisième dans laquelle nous sommes actuellement, donc une nouvelle revue, si vous voulez, qui reprend vie, ce qui a nécessité aussi, car je crois que cette rencontre a aussi pour objet d'expliquer aux lecteurs les difficultés de l'édition actuellement. Donc, ce qui a nécessité pour la revue de trouver un certain nombre de concours financiers, et ça n'a pas été chose facile. Et donc, je me suis trouvée tout naturellement, je le disais tout à l'heure, à partager ces idées. Et donc, lorsque Pierre Guillaume a souhaité se consacrer exclusivement à la Fédération historique, avant d'ailleurs de passer la main un peu plus tard à Michel Figeac, je me suis trouvée présider, je dirais, aux destinées de la revue.
Alors, vous venez d'évoquer, en effet, les difficultés qu'a pu rencontrer cette revue, la nécessité du renouvellement. Et justement, alors, comment concevez-vous votre rôle à la tête de cette revue? Déjà, de quel soutien bénéficie la revue pour continuer à paraître? Et pour votre part, je suppose que vous avez aussi souhaité faire évoluer ce modèle. Je constate notamment que les deux derniers numéros ont un titre, qu'il s'agit de numéros spéciaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, ça fait beaucoup de questions à la fois. mon rôle est purement un rôle, je dirais, d'animation. L'important dans une société savante qui publie une revue, l'important, c'est le comité de lecture. C'est le comité de lecture qui va décider des thèmes, qui va sélectionner les articles qui lui sont soumis ou provoqués. éventuellement l'écriture d'articles. Moi, je n'ai un rôle qui est un rôle, si vous voulez, d'animation. C'est-à-dire qu'au sein du comité de lecture, je donne mon avis sur les suggestions, nous discutons ensemble, je dirais, nous discutons ensemble du contenu, nous discutons ensemble, on y reviendra sans doute plus tard, de la programmation des numéros à venir, mais par contre... Alors, en tant que présidente de la société, il me revient aussi d'avoir ce que j'appellerais une fonction qui est un peu une fonction de communicateur ou de relation publique. C'est-à-dire que je suis l'interface, et c'est celle qui prend les coups, comme chacun sait, mais c'est très bien, j'étais avertie. Hein. Bon, je suis l'interface entre le milieu universitaire, qui est le milieu producteur, qui peut éventuellement exprimer son insatisfaction, et le milieu récepteur, que sont les lecteurs, le milieu distributeur, que peuvent être les libraires, et surtout, il me semble qu'une partie de ma fonction consiste, sous l'œil vigilant du trésorier, Philippe Mézy, qui est dans la salle, sous l'œil vigilant du trésorier, d'essayer de convaincre les mécènes ou les partenaires, de nous fournir les moyens de publication. Sans ennuyer le public, je veux simplement dire que la revue dispose de trois types de ressources. Elle dispose d'une part, bien sûr, des revenus liés au prix de vente du numéro et donc des abonnements, si vous voulez, également. La revue dispose, et ça n'a pas été une chose facile... La revue dispose de deux subventions, d'une part d'une subvention du Conseil général. Nous sommes revue historique du département de la Gironde et nous y veillons, hein, nous faisons attention à ne pas être une revue bordelaise, et puis une subvention de la ville de Bordeaux. Et là, la différence est grande avec le passé, parce qu'autant, en son temps, Alfred Danet avait, par l'intermédiaire de ses adjoints, donner un coup de main pour la publication, autant Jacques Chaban-Delmas l'avait fait bien volontiers. Ça a été plus difficile avec Alain Juppé, non que notre maire ne s'intéresse pas à l'histoire, bien au contraire, mais parce que les priorités budgétaires de la ville de Bordeaux ne sont pas nécessairement des priorités éditoriales. Et donc, ça a été un combat, il faut bien le reconnaître, que d'aller arracher, et c'est un combat de tous les instants, que d'aller arracher à la ville de Bordeaux quelques moyens pour permettre la publication. Voilà quel est le rôle de la présidente de la société historique. Alors, maintenant, je crois qu'on va parler plus clairement des numéros. Vous soulignez, Caroline, d'abord, je dirais, l'évolution. Voilà le numéro 2. Je n'ai pas porté le numéro 1 parce qu'il est en tel état qu'il n'est plus présentable, tout au moins celui que je détiens. Voilà le numéro 2. Nous sommes au début du 20e siècle. Vous voyez que c'est quand même relativement austère, même s'il y a eu quelques illustrations. Voilà le dernier numéro, numéro 15-2009, revue historique, l'Aquitaine au féminin, ce splendide portrait, choisi d'ailleurs par Caroline Lemao, ce splendide portrait, de même le numéro, 13, les numéros 13-14 de 2008, bon, sont également, reçoivent une présentation moderne, sont illustrés à l'intérieur. Nous avons les services d'une graphiste qui nous aide beaucoup, qui s'appelle Stéphanie Vincent, qui nous aide beaucoup à la fois pour la mise en page, pour la recherche des illustrations, et nous avons souci effectivement de présenter une revue qui à la fois soit intéressante mais qui présente un certain agrément. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous sommes résolus depuis 2 ans maintenant à publier des numéros annuel et non plus, comme cela se faisait auparavant, 2 numéros par an. Nous préférons avoir un numéro de bonne qualité, un numéro de bonne qualité, plutôt que de multiplier les numéros et d'accroître les frais d'impression. Je m'excuse de ces considérations matérielles, mais bon, je crois que ça compte aussi dans la publication. Alors nous allons venir, si vous voulez bien, au contenu. Et donc, Caroline, puisque vous avez... D'une part, il faut bien le dire, Caroline est modeste, elle est secrétaire de la rédaction, c'est-à-dire que sans elle, rien réellement ne pourrait aboutir. Elle a un travail de coordination dont je pense qu'elle va nous parler. Et en particulier, alors en dehors de ce travail général de coordination, Caroline a assuré réellement la mise en œuvre du dernier numéro intitulé « L'Aquitaine au féminin ». Alors pourquoi « L'Aquitaine au féminin » ? Est-ce que c'est pour céder aux modes qui fait que l'histoire au féminin, tout le monde en fait maintenant ?
Alors céder aux modes, je ne crois pas, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée du thème ne me revient pas directement, mais elle vient de surcroît d'un homme, puisqu'il s'agit du professeur Pierre Guillaume, qui avait suggéré cette thématique à l'occasion du colloque de la Fédération historique du Sud-Ouest. Donc vous avez déjà entendu au cours de cette présentation parler de Pierre Guillaume, parler aussi de la Fédération historique du Sud-Ouest. Vous aurez compris que les liens ici étaient étroits. Et donc à l'époque, Pierre Guillaume, lorsqu'il a proposé ce thème, parce que oui, c'était un sujet très porteur, a eu l'amabilité de me confier le projet et donc il m'a laissé mener à bien l'organisation scientifique de ce colloque. Donc je suis intervenue en quelque sorte avec une double casquette au titre de la Fédération historique du Sud-Ouest comme organisatrice scientifique et ensuite j'ai pris le relais au niveau de la revue pour assurer la publication. Donc pour ma part, vous le savez, je suis plutôt spécialiste du Parlement et de ses magistrats au temps de Louis XIV, mais j'avais eu évidemment l'occasion de croiser à plusieurs reprises l'histoire des femmes. D'abord, il s'agissait des veuves de magistrats auxquelles je m'étais intéressée. Je me suis aussi particulièrement intéressée à un personnage qui, à mon avis, est totalement passionnant, qui s'appelle Olive de Lestonac. Et pour moi, ça a été l'occasion de faire un certain nombre d'articles ponctuels. Et j'avais aussi dirigé un numéro de la revue XVIIe siècle sur le statut de la femme en Europe au XVIIe siècle. Donc j'avais déjà quelques intérêts dans cette thématique. Donc lorsque Pierre Guillaume m'a confié la direction de ce colloque, on a procédé à toute l'organisation et cette rencontre s'est tenue au musée d'Aquitaine en octobre 2009. On a réussi à rassembler... 2008, pardon, excusez-moi. un certain nombre de participants. Et la politique de la Fédération historique du Sud-Ouest depuis sa création quasiment est de s'associer toujours pour ses colloques à une société qui est porteuse en fait du projet. Et donc là, c'est la société historique de Bordeaux qui était en fait la société porteuse. Et la tradition veut que c'est la société qui publie les actes de ce colloque dans sa revue. Donc, on a eu la chance de pouvoir publier un numéro entier sur l'Aquitaine au féminin, puisque vu l'ampleur en fait des communications et du nombre de participants, on avait largement matière à faire un numéro. Alors, le thème évidemment était à la mode, il ne faut pas se le cacher, il nous intéressait de surcroît. Et il y avait déjà eu des travaux faits sur le sujet. Je penserais par exemple à l'ouvrage de Joël Dussault, Portrait de dame que vous connaissez peut-être aux éditions Sud-Ouest, qui avait mis en valeur en fait 10 personnalités pour vraiment incarner l'Aquitaine au féminin. Et notre position, eh bien, ça a été de dire que finalement, eh bien, il n'y avait pas que 10 femmes célèbres en Aquitaine. Et on a essayé en quelque sorte de lancer quelque chose, de faire appel aux différentes bonnes volontés pour un petit peu aller chercher ces femmes dans le secret des archives.
Alors, est-ce que... Un peu plus précisément, est-ce que vous avez eu de la peine, est-ce que la Fédération a eu de la peine à trouver des auteurs ?
Alors, de la peine à en trouver, je dirais même que c'est plutôt l'inverse, puisque les propositions ont été pléthoriques, preuve que le sujet était intéressant. Donc, vous connaissez sans doute la méthode de la fédération historique, qui rejoint d'ailleurs les visées, en fait, enfin, la méthode, oui, de la fédération, qui rejoint la politique de la revue historique de Bordeaux, c'est-à-dire vraiment une idée, une volonté d'ouverture sans aucune exclusive. Et donc, la fédération a lancé un appel à communication au printemps 2008, le but étant de susciter en fait toutes les bonnes volontés universitaires, mais aussi, et peut-être même surtout, non universitaires. Alors quand je dis non universitaires, c'est tous les passionnés d'histoire, que ce soit des gens qui tout simplement fouillent les archives pour leur plaisir, que ce soit des professeurs du secondaire qui trouvent, malgré leur emploi du temps chargé, le temps là aussi de faire quelques enquêtes qui les intéressent. Ça a été aussi l'occasion de donner la parole à des étudiants, parce que l'essentiel des mémoires de maîtrise reste souvent dans le secret des universités, et je crois que là, encore, la revue historique a aussi cette politique, c'est de populariser, enfin, de diffuser plutôt ces types de travaux. Il y a un certain nombre d'étudiants qui, à l'issue de leur mémoire, publient un article de synthèse et font ainsi connaître leur recherche. Donc on a eu ainsi, en fait, vraiment un grand nombre de propositions, et ça se traduit, je crois, par, dans ce numéro, une grande diversité et des contenus et des approches. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très intéressant, c'est d'une part, la large couverture chronologique. Parce que c'est vraiment, sans tricher, la femme du paléolithique à nos jours. Donc vous aurez véritablement un article sur les représentations de la femme dans les grottes, etc., par les époux de Luc, qui ont fait un travail extrêmement sérieux et de surcroît illustré. C'est l'un des avantages de la revue de pouvoir proposer un certain nombre d'illustrations de bonne qualité. Et ça va des approches s'intéressant à des groupes féminins, par exemple les femmes archies, ou alors à des individualités remarquables, qu'il s'agisse de Jeanne de Lestonac, l'une des saintes bordelaises, de Pauline Kergomar, on aura l'occasion d'y revenir. Et vraiment, ce dont j'étais ravie, c'est que ça a vraiment permis d'exhumer bien des personnalités largement méconnues aujourd'hui, mais qui, évidemment, en leur temps, ont eu un rôle important. De plus, et je crois que c'est aussi l'une des belles originalités de ce colloque, Sylvie Guillaume, lorsqu'elle a eu connaissance du thème, est spontanément venue me proposer en fait d'organiser une table ronde des femmes politiques en Aquitaine, donc qui sont en fonction aujourd'hui, et des femmes de sensibilité très diverses qui se sont réunies un après-midi pour évoquer ce que c'était pour elles l'Aquitaine politique au féminin, quelles ont été les raisons de leur engagement, est-ce que le fait d'être une femme en politique, c'est un avantage, c'est un inconvénient, comment est-ce qu'elles ont vécu leur arrivée. Et outre la diversité des sensibilités politiques, il y avait aussi une grande différence des générations, ce qui nous a permis en fait de voir de confronter des regards finalement très différents entre des pionnières qui avaient vraiment eu à se battre et des femmes qui s'engagent aujourd'hui, qui rencontrent pas forcément les mêmes problèmes. Je dis pas qu'elles rencontrent pas de problèmes, mais qu'en l'occurrence la donne est assez différente. Et évidemment, le problème souvent de ces tables rondes, c'est que la parole passe, mais les écrits restent. Donc on a fait vraiment un effort de transcription, et je crois que ça aura donné un témoignage assez original. Alors je ne pourrai pas ici parler pour Marguerite Figeac, mais je pourrais peut-être en dire quelques mots, parce que, ou vous-même d'ailleurs, puisque sa méthode, elle, est forcément différente, puisqu'elle a dirigé un numéro.
Alors, on va effectivement dire ça à deux voix. Marguerite Figeac, donc, a dirigé le numéro de 2008, dont le thème est « Éduquer, instruire et former à Bordeaux et en Bordelais de l'Ancien Régime à nos jours ». Je voudrais dire deux mots sur la structure du numéro. C'est un numéro différent dans sa structure du numéro de l'Aquitaine au féminin, qui ne comporte que des textes relatifs à la condition féminine. Ici, il y a dans ce numéro, je dirais, la majorité de la livraison est constituée par des thèmes portant sur éducation, instruction et formation, mais à cela s'ajoute, ce qui est aussi une des vocations de la revue historique, à cela s'ajoute ce qu'on appelle des varias, c'est-à-dire des articles sur des thèmes très, très différents. Par exemple, dans le cas particulier, il y a un article sur les minimes de Bligh, donc un article sur un ordre religieux, ou un article qui est d'ailleurs lié à un travail d'étudiant, un article sur le comte de Perronet, bordelais, avocat bordelais et ministre au début du XIXe siècle. Mais il y a aussi toute une partie consacrée à ce qu'on appelle l'actualité scientifique, c'est-à-dire la publication des positions, des thèses récemment soutenues par des Bordelais, permettant, si vous voulez, aussi de montrer sans arrêt le lien entre, je dirais, le travail des plus jeunes et le travail de ceux qui sont déjà des historiens confirmés. Alors, la manière dont est construite le numéro est forcément différente, si vous voulez. Marguerite Figeac, c'était toujours un peu gênant de parler à la place de quelqu'un, mais je crois quand même que je peux percevoir sa démarche. Marguerite Figeac a construit, je dirais, scientifiquement le numéro, c'est-à-dire qu'elle a commencé, d'une part, par dresser un état de la bibliographie, par demander sur l'éducation, qui est un thème sur lequel on a quand même beaucoup écrit à Bordeaux, y compris d'ailleurs dans la revue historique par le passé. Donc elle a rédigé un article de mise au point bibliographique montrant la variété des travaux existants. Ensuite, le conservateur des archives départementales, M. Bergès, a lui dressé un état des sources, mais un état actuel des sources. On savait qu'il y avait des choses. L'article de Louis Bergès montre comment les sources sont très variées, très dispersées, très lacunaires, mais néanmoins, encore porteuses de très nombreux travaux. Il y a encore, on le voit à travers ce numéro, mais il y a encore à faire, il y a de toute manière beaucoup de choses à écrire sur éducation, instruction, formation, ne serait-ce que parce qu'il y a des champs qui s'ouvre, que l'on avait relativement peu exploité par le passé. Alors, et à partir de, si vous voulez, de cet état des sources, dans un second temps, Marguerite a très bien isolé trois thèmes qui sont les suivants. D'une part, un premier thème autour du rapport entre l'enseignement religieux et l'innovation, en montrant comment, dans toutes les formes d'enseignement religieux, que ce soit à travers, par exemple, la tradition jésuite, que ce soit à travers, et en faisant appel, elle a fait appel, bien sûr, à des auteurs différents, à travers le cas des écoles protestantes, ou à travers l'éducation très spécialisée qui a été celle donnée à Bordeaux aux sourds-muets, on pense aux travaux de l'abbé de l'Épée, on pense aux travaux de l'abbé Sicard ou à Monsieur de Saint-Sernin, il y a là, réellement, un renouvellement des méthodes pédagogiques. Donc l'innovation, second thème, alors, et ça c'est plus moderne, on n'avait pas fait beaucoup ça en histoire locale jusqu'à maintenant, en quoi l'enseignement peut-il être étudié comme un métier, et donc comment on forme. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que Marguerite Figeac, bien sûr, s'est penchée sur les débuts de l'école normale de filles de la Gironde. Elle a d'ailleurs eu, et je me demande, elle l'aurait dit, mais je suis même à peu près sûre qu'elle a pu utiliser pour cet article des sources qu'elle a pu découvrir justement à l'IUFM, des sources à la fois photographiques et des sources écrites qui ont permis réellement de renouveler, si vous voulez, la problématique de la formation des institutrices au XIXe siècle, avant et après. hein, la création en 1884, de l'école normale. Il est question également de ceux qui enseignent du stress, d'abord des enseignants. Hein, on croit toujours que les enseignants stressés, c'est le monopole de la deuxième moitié du XXe siècle. Erreur. Au XIXe siècle, les enseignants étaient déjà stressés. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça, mais éprouvaient un certain malaise parfois dans leur métier. Il est question également, et c'est intéressant, des recteurs. Hein, on dit toujours que, à partir du XIXe siècle, l'administration de l'éducation nationale est montée en puissance et qu'en particulier les recteurs ont accaparé le pouvoir. L'article qui est ici, je ne le déflore pas parce qu'il faut que vous les lisiez quand même, mais l'article qui est ici, dû à Jean-Paul Jourdan, montre très bien comment, en fait, au moins sous le Second Empire, les recteurs n'avaient pas grand pouvoir. Hein, l'homme important, c'était le préfet. Et le recteur obéissait. Le recteur obéissait au préfet. Et puis, dernier élément de la livraison, si vous voulez, on est à la fois dans la... On est moins dans l'éducatif, on est plus dans la formation, probablement. Alors, toute une série d'articles, trois articles importants, consacrés à l'université. Et ça, je crois que c'est un apport qui est novateur. Vous savez que depuis les années 90, on a entrepris à Bordeaux d'écrire, nos collègues ont entrepris d'écrire l'histoire de la faculté de droit, l'histoire de la faculté des lettres. Il n'y a rien sur les sciences, hein, pour le moment. Mais bon. Et dans ce numéro, alors, il est question des débuts de la faculté des lettres à Bordeaux, donc au moment où l'université a été constituée, à partir de 1896. Et ça montre bien comment on essaie à ce moment-là d'assigner à l'université un rôle qui ne soit pas seulement un rôle, je dirais, de transmission de connaissances, mais déjà un rôle de formation, hein, de formation de futurs enseignants. Il y a un second article... Il y a deux articles ensuite qui ont été écrits par des sociologues. Et je crois qu'on doit rendre à Marguerite cet hommage d'avoir demandé à des sociologues de venir se joindre aux historiens. Alors, un sociologue qui étudie le transfert de l'université au campus. Et il y a au moins une légende qui tombe à travers cet article, une légende bien bordelaise, qui est celle de Jacques Chaban-Delmas, qui disait à qui voulait l'entendre que c'était lui. Hein, que c'était lui qui avait dit qu'il fallait renoncer à installer l'université sur les terrains de l'abattoir, donc près des quais, pour la mettre au campus. L'article en question ne dit pas exactement la même chose. Hein, il y a justement là tout un jeu que le sociologue étudie bien entre les acteurs universitaires, entre le politique, des réticences et le recteur, précisément, et en montrant comment il y a un jeu d'influence qui s'est noué. Et enfin... La livraison se termine par alors un hommage rendu à quelqu'un, à un sociologue, il s'agit d'Émile Durkheim, qui a professé à Bordeaux dans les débuts de sa carrière, qui n'a pas beaucoup aimé Bordeaux. Durkheim n'a pas beaucoup aimé Bordeaux. Et le professeur Cuin montre très bien pourquoi. Pourquoi ? Alors en raison notamment de l'originalité de sa pensée qui détonnait probablement un peu dans l'université bordelaise du début du XXe siècle, Durkheim a eu un peu de peine à se faire reconnaître et à quitter finalement Bordeaux sans déplaisir. Donc vous voyez qu'on peut avoir, dans deux numéros différents, on peut avoir des approches à la fois très, très, très complémentaires, mais en même temps, des manières différentes d'aborder l'histoire. Et c'est toute la richesse de ces deux numéros.
Et en effet, ce qui m'avait frappé en lisant le numéro de Marguerite, et aussi quand j'ai reçu un certain nombre des communications pour l'Aquitaine au féminin, c'est que le rapport femme et éducation a été l'un des thèmes majeurs qui s'est totalement imposé. Tout de suite, on a eu un certain nombre de communications traitant de ce sujet, ce qui, à mon avis, est assez significatif, aussi bien du rôle qu'on assigne effectivement aux femmes que de l'idée qu'on se fait du rôle premier de la femme. Et significativement, une fois encore, les deux principales dimensions qui sont apparues, c'est d'abord la femme en tant que mère, bien sûr, pilier de la cellule familiale, et la femme en tant qu'éducatrice. Et on voit très bien que les deux sont forcément très liés. Mais ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est que les figures auxquelles on s'intéresse permettent de dépasser l'idée que la femme, c'est uniquement l'éducation de base. C'est-à-dire que ce qu'on a ici, c'est un certain nombre de portraits de professionnels de l'éducation et des professionnels qui interviennent à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va aller aussi bien, ça va de la maternelle à l'université. La femme n'est pas cantonnée au personnage classique de l'institutrice, je dirais. Mais on voit vraiment tous les univaux. On voit aussi la femme comme à des postes de responsabilité. Et une femme qui innove en matière d'éducation. Alors l'une des intervenantes qui est aussi bien, en l'occurrence ici, objet d'histoire que communicante, je penserai ici à Anne-Marie Cocula, qui est signalée dans l'article sur les enseignantes de l'université, qui a été présidente de l'université de Bordeaux, et qui aujourd'hui a prolongé son engagement au niveau politique, et qui est intervenue donc dans le cadre de la table ronde. Ce qu'on voit aussi, je dirais, c'est que ce sont des femmes qui ont changé l'éducation et qui ont créé l'école. On pensera au personnage de Pauline Kergomar, que vous retrouverez dans les deux numéros. Pauline Kergomar, c'est elle qui a créé l'école maternelle telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Mais on pensera aussi, et je vois Alain Contis dans la salle, à ces femmes qui ont créé les cours d'accouchement au XVIIIe siècle, une spécialité, je dirais, éminemment féminine. Mais là, on a eu une vraie école de la pratique médicale qui a évidemment fait beaucoup avancer. Et donc, je vous le disais, il y a un certain nombre de passerelles entre le numéro de Marguerite et le mien. Donc d'abord, bien sûr, la figure de Pauline Kergomar, fondatrice, je vous l'ai dit, de l'école maternelle. Mais aussi, donc, ces femmes que Marguerite a fait revivre, celles de l'école normale. Et je confirme ce que vous disiez, Séverine, c'est-à-dire qu'en effet, elle a pu s'appuyer sur des fonds qui sont habituellement assez peu accessibles à l'historien, c'est-à-dire les fonds qui sont aujourd'hui ceux de l'IUFM d'Aquitaine, et notamment l'ancienne bibliothèque. La revue reproduit notamment un certain nombre de clichés de l'époque sur l'organisation des classes, etc., sur les plans des bâtiments. Donc là, je pense qu'on a, à mon avis, un certain nombre de choses qui se croisent. Mais on l'aura remarqué, et là je renvoie tout de suite la balle à Séverine Pacto, c'est que l'autre dimension qui est apparue assez largement, aussi bien dans l'Aquitaine au féminin que dans la question de l'éducation, ce qui traverse ces deux thématiques, c'est bien sûr la question de la religion. Et d'ailleurs, vous avez participé justement à ces deux numéros.
Oui, c'est un peu un hasard, mais bon, ça tient effectivement au croisement, on l'a dit, entre les différents thèmes. Ce que je voudrais dire simplement pour parler des femmes et de la religion, c'est que je trouve intéressant qu'on puisse, dans un même numéro, évoquer la figure de Jeanne de Lestonnac, à la fois grande figure religieuse, mais aussi éducatrice remarquable, hein, et les méthodes éducatives mises en œuvre dans la congrégation, par la congrégation des filles de Notre-Dame, sont réellement des méthodes qui ont été tout à fait novatrices en leur temps. Donc il peut y avoir des figures de ce type-là. Il y a eu forcément dans le protestantisme bordelais des figures également qui ont voulu être novatrices en matière d'éducation, moins des figures individuelles que plutôt l'idée que des femmes pouvaient, c'est ce qui s'est fait dans le protestantisme, pouvaient se réunir pour réellement fonder, créer des écoles destinées aux petites filles. Donc c'est une autre manière, et éduquer, je dirais, avec autant d'attention, ce qui n'était pas si commun que ça au XIXe siècle, éduquer avec autant d'attention les petites filles que les jeunes garçons. Donc si vous voulez, ce sont des parcours qui sont effectivement des parcours parallèles, mais dans lesquels on retrouve des différences, et des différences qui sont tout à fait intéressantes à souligner. Alors, le temps passant, et très vite, je voudrais qu'on puisse revenir sur un aspect qui me paraît également intéressant dans cette livraison, qui est la thématique des femmes d'exception. Est-ce que on peut, après avoir lu ce numéro, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il faut faire pour être une femme d'exception ?
Alors, la femme d'exception, mode d'emploi, et j'aurai une réponse aussi provocante que la question, c'est-à-dire que pour être une femme d'exception, il faut se trouver un historien. C'est-à-dire que le grand problème de ces femmes d'exception, c'est que souvent on les ignore, parce qu'il n'y a personne pour en faire l'histoire. Donc c'est en quelque sorte un appel aux bonnes volontés, et ce manque d'attention, on le constate, Marc Agostino par exemple, le premier l'a constaté, il a fait une recherche sur les deux grandes histoires de Bordeaux, celle de Camille Julian d'abord, et puis celle publiée par la Fédération historique il y a quelques années de ça maintenant, et en se disant je vais regarder la place des femmes dans les histoires de Bordeaux. Et il a été bien en peine parce que ces femmes, malheureusement, elles sont extrêmement peu présentes. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'elles n'existent pas. Et je crois que, en effet, ça a été l'un des intérêts de ce type de revue, ça a été d'exhumer un certain nombre de ces femmes d'exception. Vous en trouvez. Alors, on a fait le choix. Il y a des grands noms, évidemment, qu'on attendrait ici et qu'on ne va pas trouver. Vous ne trouverez pas Aliénor d'Aquitaine, mais si vous cherchez Aliénor d'Aquitaine, vous trouverez sans problème. En revanche, celles qui ont été mises à l'honneur ici sont moins connues, mais à mon avis, sont tout aussi passionnantes. Je penserai par exemple à une thématique qui moi m'a semblé originale mais qui s'est fortement dégagée, c'est par exemple l'engagement des femmes dans le milieu sportif. Et je dirais même le milieu sportif, celui des sports de l'extrême, ouais. Et sous l'Ancien Régime. Alors ça, je crois que ce sont quand même des thèmes très très novateurs. Alors sous l'Ancien Régime, c'est... plutôt sous le 19e siècle, il ne faut pas non plus remonter trop loin, ce sont ces fameuses premières aéronautes. Parce que l'aéronautisme, l'ascension en ballon, a été un spectacle très à la mode à la fin du 18e siècle et tout au long du 19e siècle. Et qui envoyait-on dans ces ascensions, eh bien, des jeunes femmes, parce que il fallait faire trembler le public sur le sort de ces malheureuses, parce qu'un certain nombre
sont très courageuses,
et puis un certain nombre ont malheureusement mal fini, parce que c'était vraiment un sport très risqué. Donc je penserai ici à Sophie Blanchard, à Elisa Garnerin, dont vous trouverez les destinées ici. Un peu plus tard, je penserai aussi à la figure de la navigatrice Virginie Herriot, The Queen of Yachting, pour reprendre le titre qu'elle portait. On l'appelait aussi Madame de la Mer, c'est un nom qu'on ignore assez largement aujourd'hui, mais qui est considérée à l'époque justement du début des régates comme une très grande championne. Elle a quand même remporté près de 130 victoires. Elle a 130 victoires à son actif. À côté de ça, elle a une œuvre philanthropique impressionnante par ailleurs. Donc, vous voyez, ce sont des personnages qui, à mon avis, méritaient qu'on les ressuscite. Mais je dirais qu'évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Et il suffit souvent de prendre le temps de se pencher dans les sources, puisque, par exemple, pour l'époque moderne, il suffit souvent d'ouvrir une liasse de notaires pour les voir, pour les y croiser presque tous les feuillets, et on découvre assez facilement ici des femmes d'exception qui se sont illustrées non plus dans le domaine éducatif ou religieux, qui sont en quelque sorte leur vocation traditionnelle, mais tout simplement dans le monde des affaires. Et c'est beaucoup moins connu, mais là je renverrai au numéro qu'a dirigé il y a quelques années de ça notre collègue Dominique Picot sur les femmes d'affaires, un numéro des Annales du Midi, où on voyait donc justement vraiment comment ces femmes s'impliquaient. Et donc il reste encore évidemment, à mon avis, beaucoup, beaucoup à faire. S'il y a des vocations dans la salle, il y a encore beaucoup de femmes d'exception qui cherchent leur historien ou leur historienne. Donc je vous dis, vous ne trouverez pas ici ni Aliédor d'Aquitaine, ni Marie Brizard, qui est aussi l'une des autres grandes figures, ni même Suzanne Lacor. Je pense que Marguerite aussi, si elle était là, vous parlerait sans doute de Joséphine de Sauvage d'Yquem. Mais je remarquerai d'ailleurs qu'elle-même a d'ailleurs fait le choix de privilégier plutôt dans son intervention des marginales. Donc vous voyez le changement de perspective totale. Et je rebondirai justement sur cette question-là pour évoquer le problème des sources qui est patent quand on fait de l'histoire. Pour en quelque sorte, je dirais pas dédramatiser, mais pour dire que finalement, quand on fait l'histoire des femmes, le problème des sources que l'on croise, c'est souvent les problèmes classiques que l'on trouve, et que l'on trouve presque pour des groupes, pour des milieux sociaux défavorisés. Je dirais que les logiques sont un peu les mêmes, tout simplement parce que dans les deux cas, vous avez un milieu qui, pendant longtemps, a peu généré de sources. Pourquoi ? Parce que d'abord, pendant longtemps, les femmes ont été moins alphabétisées. Donc elles ont moins pris la plume, vous avez moins de ce qu'on appelle les écrits du fort privé. Tout ça, ça nous manque. Et comme elles étaient considérées comme d'éternelles mineures sous la tutelle masculine, on a longtemps pensé, à mon avis à tort, qu'elles intervenaient peu dans la vie économique. Comme je disais tout à l'heure, il suffit d'ouvrir une liasse de notaire pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses à revoir en la matière. Et ce qui a évidemment beaucoup nui, je crois, pendant longtemps à l'histoire des femmes, c'est que la primauté, c'était d'abord celle du regard extérieur, un regard qui était très orienté et qui, en l'occurrence, était éminemment masculin. Donc forcément, vous avez déjà un regard qui est conditionné, avec de surcroît la prégnance du discours religieux qui n'était pas, qui a mis du temps avant d'être valorisant pour la figure féminine. Donc finalement, ce discours largement majoritaire, je crois, a empêché qu'on avance sur le sujet. Mais j'espère, et je crois que c'est plutôt bien parti, les choses sont en train de largement changer. Donc je crois que l'histoire des femmes, là, a considérablement progressé. Mais je pense que les horizons de la revue vont être désormais tout autres, et je me tourne donc vers Séverine Pactot.
Oui, la revue ne va pas parler exclusivement, ne souhaite pas parler exclusivement, bien sûr, du thème de l'éducation ou du thème des femmes aquitaines dans l'histoire. Nous avons alors prévu, hein, ça fait partie bien sûr de nos projets, nous mettons en chantier les numéros à venir, alors sans vous en dévoiler complètement le contenu d'abord, parce qu'il n'est pas arrêté, mais les numéros des deux années à venir sont, nous y avons réfléchi, et celui de 2010 est en chantier, celui de 2011 est plus à l'état des bouches, mais je peux vous dire globalement ce qu'il en est. Le numéro qui paraîtra à la fin de 2010, c'est un numéro alors qui va revenir à des thèmes, je dirais, un numéro transversal, un numéro qui comportera des varias et qui comportera l'actualité scientifique, mais le thème de ce numéro sera les réseaux de pouvoir. Les réseaux de pouvoir à Bordeaux et dans le département de la Gironde, alors que ce soit les réseaux de pouvoir politiques, et il sera question notamment, bien sûr, de l'intendant, que ce soit les réseaux de pouvoir commerçants, il sera question des marchands et de la Bourse de Bordeaux. Nous pensons aussi pouvoir avoir un article concernant les réseaux de pouvoir policier. Un jeune historien vient de publier un travail qui a été primé sur la police impériale à Bordeaux au début du Premier Empire. Et donc là, il y a toute une manière d'étudier la façon dont le pouvoir est exercé. Et donc, ce numéro est à l'écriture, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il sera dirigé par le professeur Laurent Coste, donc certainement bien dirigé. Et il comprendra aussi des varias avec des articles aussi divers qu'un article concernant les délits forestiers forestier. Vous voyez qu'on se préoccupe hein, de la forêt en Gironde, thème important s'il en est. Un article d'histoire très contemporaine, puisque un jeune historien allemand nous a proposé un article sur le débarquement en Gironde. Hein, sur le débarquement en Gironde, vu par ce point de vue-là, et il nous paraît intéressant de le publier. Nous envisageons, et nous avons aussi des projets pour le numéro de 2011, là nous allons revenir à un thème qui est très, très ancré dans l'histoire bordelaise, qui est le thème de Bordeaux et ses plantations. Alors, Bordeaux et ses plantations, vous pouvez vous dire encore pourquoi, parce que beaucoup de choses ont été écrites, mais il se trouve, et on revient toujours à la vocation de la revue, il se trouve qu'il y a deux jeunes historiens qui ont soit juste terminé ou sont en train d'écrire des articles sur ce thème-là, donc il est intéressant de pouvoir publier l'état de la recherche. Vous savez par ailleurs, et c'est toujours la fidélité de la revue à ses origines. Vous savez par ailleurs probablement que les archives municipales ont un fonds important et Madame Vatican, le conservateur en chef des archives municipales, souhaite qu'on puisse faire une publication dans la revue. De la même manière, vous n'êtes pas sans ignorer qu'au musée d'Aquitaine, il y a eu de nouvelles salles qui ont été inaugurées qui concernent notamment, bien sûr, le commerce de Bordeaux avec ses plantations. Et donc, là aussi, nous avons matière, me semble-t-il, à prévoir des numéros. Alors, pour l'instant, bien sûr, tout ça est en gestation, mais nous espérons que vous aurez à cœur, le moment venu, d'en être des lecteurs. Merci de nous avoir écoutés.